Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Philippe de Malherbe.
On va évidemment parler inflation, on va parler des grands industriels. C'est ce que nous avions prévu lorsque je vous ai invité. Depuis, il y a eu bien sûr l'effroi. L'effroi à Annecy. D'ailleurs, on l'apprend ce matin, le président se rend sur place auprès des victimes. Comment vous avez vécu cette journée d'hier?
Avec énormément d'émotions, comme je pense tous nos compatriotes. Je pense d'abord aux victimes, aux enfants qui sont à l'hôpital en train de lutter entre la vie et la mort. Je pense qu'il n'y a rien de plus barbare, rien de plus insensé, et rien qui heurte davantage que de s'attaquer à des enfants. Un enfant de 18 mois, de 2 ans, tout ça dépasse totalement l'entendement. Et je crois que la meilleure réaction qu'on puisse avoir, c'est celle qu'a eue ce héros, Henri, avec d'autres qui sont encore anonymes, c'est-à-dire...
Henri, c'est celui qu'on appelle le héros au sac à dos.
Celui qui s'est opposé avec son sac à dos. Je pense que la plus belle parole qui ait été prononcée, c'est lui qui l'a prononcée sur son compte Facebook en disant... Voilà, il faut prier pour les victimes, pour ceux qui ne croient pas, penser aux victimes.
Moi, je vais bien, mais prier pour les enfants, voilà exactement les mots qu'il a eus. Il était en pèlerinage, lui-même, à Annecy. Bruno Le Maire, les réactions politiques ont été immédiates, certaines sobres et dignes, d'autres cherchant immédiatement une raison politique. Quand vous voyez quelqu'un comme Éric Ciotti, de votre ancienne famille politique, qui a d'abord réagi, qui a d'ailleurs annoncé qu'il allait tenir une conférence de presse dans l'après-midi, et il a annulé, semble-t-il, en tout cas de manière concomitante, au moment où on a appris que l'assaillant se disait chrétien. Comment vous réagissez aussi à ça?
Moi, je pense que dans les heures qui suivent un tel drame, qui, je le redis, touche des enfants, et pour tous nos compatriotes, pour ceux qui ont des familles, ceux qui ont des enfants, ceux qui voient leurs propres enfants troublés, perturbés par ce qui s'est passé à Annecy, il y a un temps de décence et de silence. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de la politique, c'est le moment de la nation. La politique, par définition, elle divise, il y a des convictions qui s'affrontent, ça fait partie de la vie politique et de la vie démocratique. Et aujourd'hui, ce n'est pas le temps de la politique, c'est le temps de la nation. On se rassemble, on pense aux victimes, on pense aux familles des victimes, on pense à toutes les forces de l'ordre, les policiers municipaux, les pompiers, tous ceux qui se sont interposés, on se rassemble. On se rassemble, on fait bloc pour tenir. On tiendra si nous sommes rassemblés et on s'affaiblira si nous sommes divisés. Donc laissons la politique de côté un instant et pensons à la nation.
La question quand même du lien avec les filières d'immigration, c'est comme ça que pose la question du côté du RN. Je recevais ce matin la porte-parole du RN sur RMC, qui disait oui, mais enfin, il n'avait rien à faire là, disait-elle, qu'il soit de quelque nationalité que ce soit, de quelque revendication que ce soit. Elle disait, malgré tout, il n'avait rien à faire ici, il aurait dû rester en Suède ou ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je dis qu'il y a des questions qui se posent et qu'il faudra y apporter des réponses plus tard. Et qu'il vaut mieux apporter des réponses quand on sait quelque chose. On ne joue pas avec un drame.
Il y a quelques informations que l'on a.
Oui, mais ces informations, elles sont très parcellaires.
L'asile a été refusé il y a 4 jours.
Partielles, elles seront données au fur et à mesure. La justice doit apporter des éclaircissements. La police va apporter des éclaircissements. Et je vais vous dire très sincèrement, je n'en sais pas plus que vous. Je suis membre du gouvernement, responsable de l'économie et des finances. Je n'en sais pas plus que vous. Et je pense qu'ajouter toujours du commentaire au commentaire, du bruit au bruit, au moment où, je le redis, des enfants se battent entre la vie et la mort. Il y a une forme d'indécence. Parfois, le silence est la seule chose décente, surtout en politique.
Fermons donc cette page d'émotion, Bruno Le Maire, sur ce mot de silence. Et ouvrons celle de votre portefeuille, l'économie. Les prix, vous avez rencontré hier après-midi, parce qu'en effet la politique continue pendant ce temps-là, vous avez rencontré à Bercy hier après-midi les grands industriels, ceux que depuis un mois vous invitez à revenir à la table des négociations, et ça n'a pas marché.
Si, ça a marché. Je pense que nous avons bien progressé hier, et progressé surtout de manière très concrète pour les Français, avec un objectif qui sera vérifié, que les prix de certains produits alimentaires baissent dès le mois de juillet. C'est-à-dire tous les prix, dont les prix sur les marchés de gros baissent, dans les rayons, ils doivent baisser aussi. Je ne dis pas que l'inflation ralentit, je dis que ces prix doivent baisser. Je pense aux pâtes, le prix du blé baisse, le prix des pâtes doit baisser. Je pense aux huiles, je pense à la volaille, je pense aux céréales, je pense à l'alimentation animale. Sur un certain nombre de produits dont la liste me sera transmise la semaine prochaine, les prix baisseront cet été, c'est ce à quoi se sont engagés les industriels.
Donc, les industriels, c'est très important ce que vous nous dites ce matin, les industriels que vous avez réunis hier à Bercy se sont engagés auprès de vous à vous faire parvenir d'ici la semaine prochaine une liste de produits sur lesquels les prix vont baisser.
Tout à fait, je suis très concret sur l'engagement, on entre un tout petit peu dans la technique.
Allons-y, hein, rentrons même dans les rayons si vous voulez.
Ils ont pris trois engagements. Le premier engagement, c'est une indexation anticipée de la baisse des prix. Quand les prix de gros baissent, les prix du blé baissent, il faut parfois 3 mois, 4 mois, 5 mois avant que le prix des produits concernés, le prix des pâtes, baisse également. Là, ils ont accepté une indexation anticipée pour que le prix de ces produits, je pense en particulier aux pâtes, baisse dès le mois de juillet. Alors que sinon, s'il n'y avait pas eu d'indexation anticipée, ça aurait été vers septembre, octobre,
voire un peu plus tard. Et quand vous dites qu'ils ont pris cet engagement ?
C'est les 75 plus gros industriels de l'agroalimentaire.
Les 75 ont pris cet engagement ?
C'est les 75 ont
quand
pris cet engagement.
Quand vous parlez des pâtes, vous nous dites que les Lustucrues, les Barillas, elles vont toutes baisser.
Je ne veux pas citer les noms, mais les noms que j'ai donnés, ce sont des engagements.
Est-ce que ces pâtes-là, est-ce que les Barillas, est-ce que les Lustucrues...
C'est l'engagement qui a été pris, donc ces prix doivent baisser dès cet été, dès le mois de juillet.
Leur patron, les vieux dans les yeux, vous ont dit oui, on s'engage, la semaine prochaine, vous aurez...
Ils ont dit, nous ferons de l'indexation anticipée pour que les prix baissent dans les rayons. Je pense que c'est suffisamment clair. Le deuxième engagement qu'ils ont pris, qui est très important, c'est faire ce qu'on appelle des remises en fond de rayon. C'est pas des promotions. Des remises en fond de rayon, ça veut dire que très directement, sur les rayons d'un certain nombre de produits où les prix de gros ont baissé, là aussi, les prix devront baisser de 2, 3, 5, peut-être jusqu'à 10% sur certains produits.
Jusqu'à 10%?
Ça pourrait, jusqu'à 10% sur certains produits.
Quels produits vous avez en tête?
Je pense que les pâtes sont le bon exemple de prix qui doivent significativement baissé au cours des semaines qui viennent. C'est le deuxième engagement qu'ils ont pris. Et ils me fourniront là aussi la liste intégrale des centaines de produits qui seront concernés par ce qu'on appelle ces remises en fond de rayon. La liste me sera fournie la semaine prochaine par ces 75 grands industriels, ce qui me permettra de vérifier avec la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes que l'engagement des industriels est tenu. La confiance, c'est bien. Le contrôle, c'est encore mieux.
C'est l'inil.
Et la troisième chose à laquelle ils se sont engagés, c'est de rouvrir les négociations commerciales quand ils remplissent les critères que nous avions fixés la semaine dernière. Négociations commerciales, c'est important. Le défaut des négociations commerciales, c'est que ça prend du temps et que ça ne peut pas nécessairement conduire, dans tous les cas de figure, à une baisse des prix. Donc la réunion d'hier, elle était très importante et positive parce qu'elle a permis de conduire à des engagements concrets de baisse des prix sur des produits, dans des marques précises, dont la liste me sera fournie la semaine prochaine.
Maintenant, j'ai deux conséquences à vous demander. La première, c'est qu'est-ce que vous ferez de cette liste? Vous avez dit que vous alliez vérifier avec la répression des fraudes, mais est-ce que vous ne pourriez pas vous engager à publier cette liste? Est-ce que nous, les Français, qui allons faire nos courses, on n'aurait pas intérêt à avoir la liste et à savoir que Lustucrues va faire baisser, mais pas Lustucrues, par exemple?
J'essaie de faire les choses sérieusement. Et évidemment, dans un cadre légal, je ne peux pas rendre cette liste publique, parce que je dévoilerai des secrets commerciaux. Je peux simplement dire que ça concernera plusieurs centaines de produits de consommation courante parmi les produits que j'ai cités, avec à chaque fois des différences. La volaille, elle doit baisser, parce que les prix de production ont baissé. Sur le porc, sur le bœuf, c'est différent, parce que les coûts de production restent élevés. Sur le lait, il n'y aura pas de baisse des prix, parce que sinon, c'est les producteurs qui trinqueraient. En revanche, sur ces produits que j'ai cités, les pâtes, l'huile de tournesol, la volaille, l'alimentation animale, là, les prix doivent baisser dès juillet. J'aurai la liste très précise des marques et des produits. Je vérifierai grâce à la DGCCRF et les sanctions possibles restent sur la table. Et les choses sont très claires.
On va revenir sur les sanctions et sur la manière dont vous le feriez ou non. Mais précisément, vous aviez dit la semaine dernière, s'il ne joue pas le jeu, je n'hésiterai pas à faire du name and shame. Mais à l'inverse, ce qui m'étonne, c'est que quand il s'agit au contraire de dire, il y en a qui ont joué le jeu et c'est positif, là, quand vous vous renseignez, on vous dit, vous ne pouvez pas le faire. Ça veut dire que vous n'auriez pas pu faire l'inverse. Vous
n'auriez
pas non plus pu dire, ils ne jouent pas le jeu.
Si, je peux très bien donner le nom. Et d'ailleurs, la possibilité reste sur la table. S'il y a un de ces 75 industriels de l'agroalimentaire, de ces grandes multinationales, qui a des marges qui continuent de progresser et qu'il joue pas le jeu, bah ça veut dire qu'il joue pas le jeu de la lutte contre l'inflation. Donc son nom sera révélé au public. Et les choses sont très claires avec les industriels. Je leur fais confiance. D'ici la fin du mois de juin, si je vois que les engagements ne sont pas tenus, nous donnerons les noms des industriels. Mais je pars du principe qu'à partir du moment où ils ont pris l'engagement devant moi, que les choses sont très claires, qu'il y avait Olivier Grégoire, ministre des PME, Roland Lescure, ministre de l'Industrie, qui était présent, leur parole vaut engagement et cet engagement sera respecté.
Il n'y en a pas un seul qui... C'est-à-dire que Nestlé, Coca, ils ont tous dit « on joue le jeu ».
Ils ont tous dit « on joue le jeu ».
Donc, il n'y en a pas un qui est resté derrière la main.
Ils ont tous dit « je joue le jeu », ce qui veut dire que sur les produits dont ils me donneront la liste, l'engagement de baisse des prix de 2, 5, 10% devra être respecté, que ceux qui remplissent les critères de négociation commerciale devront revenir à la table de négociation. Aujourd'hui, il y en a 2 ou 3. Il y en a au moins une quinzaine qui remplissent ces critères de réouverture des négociations commerciales. Donc il faut que ces 15 reviennent à la table de négociation. Et je le redis avec
Attendez, je voudrais comprendre, parce qu'il y en a 75 qui sont les grands groupes, il y en a 2 ou 3 qui avaient déjà joué le jeu.
Exactement.
Et vous me parlez là de 15. Ça veut dire qu'en fait, sur les 75, il n'y en a que 15 qui vont vraiment baisser les prix, parce qu'il n'y en a que 15 qui sont en situation de baisser les prix.
Pas du tout, ça veut dire simplement que vous avez des gammes de produits et que vous avez un industriel agroalimentaire qui peut faire du porc, de la volaille et du bœuf. Il va pouvoir baisser sur la volaille parce que la volaille,
mais
elle a des coûts de production plus faibles, mais il
ne
baissera pas sur le bœuf et sur le porc. Et donc, comme on est rentré, on a mis du temps hier, on a passé 2 heures à regarder produit par produit, on s'est dit qu'est-ce qui est le plus efficace pour le consommateur. C'est ça que je me suis demandé. Moi, je ne me paye pas de mots, je n'ai pas du tout envie de pouvoir dire aux Français, vous inquiétez pas, les négociations commerciales sont rouvertes. Si au bout du compte, dans les rayons, les prix sont toujours aussi élevés, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai préféré rentrer avec Olivier Grégoire et Roland Lescure dans le détail pour regarder effectivement où les marges progressent, où il est aberrant qu'il y ait encore des prix qui augmentent. Les pâtes sont le meilleur exemple. Le blé baisse, les pâtes doivent baisser.
Bruno Le Maire,
en revanche, je le redis, sur le lait, sur le porc, sur la viande bovine, là, c'est plus difficile.
Il n'y aura pas de baisse parce que mécaniquement, la production reste très élevée. Vous avez dit, il faut que cet engagement, il soit clair, net, écrit avant fin juin. La conséquence dans les rayons, c'est pour quand?
C'est-à-dire, c'est pour juillet.
Juin, l'engagement. Juillet, les conséquences
juin,
dans les rayons.
L'engagement. Juillet, les prix qui baissent dans les rayons sur les centaines de produits et de références, comme on dit, qui me seront transmises. Et après, j'ai 2 possibilités. La première, c'est de nommer les entreprises qui n'auraient pas le jouer le jeu. Et la deuxième, que je conserve, c'est la possibilité de mettre en place une taxe sur les marges excessives qu'auraient faites les entreprises de l'agroalimentaire.
Une taxe de combien? Vous avez commencé à dessiner un peu les contours.
Je peux juste vous dire que l'instrument juridique est prêt, que l'instrument juridique a été validé par la direction des affaires juridiques de mon ministère, qu'elle a été présentée aux industriels de l'agroalimentaire, donc ils savent parfaitement à quoi s'attendre. Moi, je ne peux pas me retrouver...
Je veux bien comprendre. C'est une taxe, on évoque 5%.
Mais le taux, vous savez, il est décidé par les parlementaires. Moi, je propose le mécanisme, et le taux, ensuite, il est décidé par les parlementaires.
Alors, imaginons,
et nous
n'en
sommes pas là. J'ose espérer que je n'aurais pas dégainé cette arme fiscale.
Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ces 5%, ils s'appliqueraient uniquement à la partie marge exceptionnelle, ou est-ce que ces 5%, ils tomberaient sur l'ensemble de la marge du groupe?
Les 5% ou 3% ou 2%, aujourd'hui, il n'y a pas de taux qui a été fixé, s'appliqueront à la marge de l'entreprise. Si nous nous apercevons...
Pas uniquement à la surmarge, si
non,
je peux me permettre.
Enfin, c'est important la marge de l'entreprise.
Voilà,
si nous apercevons...
Ce serait une sanction
nous
conséquente dans ce cas.
J'espère que chacun entend cela. Nous travaillons au ministère de l'Économie et des Finances sérieusement et rigoureusement. Donc nous avons les chiffres de l'INSEE et nous avons les chiffres de la DGCCRF qui montrent une chose très simple. Le taux de marge des entreprises de l'agroalimentaire a fortement progressé au cours des premiers mois de l'année 2023. Et ils ont plus que rattrapé les pertes qu'ils avaient faites dans les 2 années passées. Tant mieux pour eux. La seule chose que je leur demande, c'est de dire, vous pouvez garder une partie des marges pour vous, c'est normal, il faut que vous investissiez. Mais il y a une partie des marges que vous devez rendre aux consommateurs. Et c'est ça que je vérifierai. Vous le faites, tant mieux, et je pense que ce sera le cas. Vous ne le faites pas, ben nous le récupérerons par la voie fiscale.
Et du côté des distributeurs, tout va bien, ils vont jouer le jeu,
les distributeurs,
ils vont baisser
engagés à poursuivre le trimestre anti-inflation jusqu'à la fin de l'année, du 15 juin jusqu'à la fin de l'année. Là aussi,
mais je veux dire, sur ces produits-là dont vous parlez, vous le savez, vous en avez parlé, j'imagine, avec
bien
eux.
Sûr.
Ils
nous,
ont dit oui, on change des étiquettes dès le début du mois de juillet.
Là aussi, je cherche simplement à jouer le rôle qui est le mien, c'est-à-dire faire baisser les prix pour les consommateurs en rassemblant les acteurs. Le ministre de l'économie n'a pas une réglette entre ses mains grâce à laquelle il pourrait faire monter ou faire baisser les prix. En revanche, il a un pouvoir d'injonction vis-à-vis des distributeurs et des industriels pour leur dire, vous vous rassemblez, vous trouvez des accords et vous faites baisser les prix. C'est ce à quoi nous sommes arrivés hier. Nous avons réglé le problème des distributeurs d'abord avec Olivia Grégoire, réglé hier le problème de l'industrie agroalimentaire avec Roland Lescure, et maintenant j'attends que ça se voit dans les rayons.
Un dernier mot, parce que je voudrais aussi qu'on puisse parler électricité et logement. Ça veut dire que vous pouvez quand même dire aux Français ce matin que leur caddie le mois prochain leur coûtera moins cher.
Je dis aux Français que dès le mois de juillet, sur un certain nombre de références et de produits, les prix baisseront en juillet. Et nous le vérifierons et nous sanctionnerons ceux qui ne jouent pas le jeu.
EDF est 100% national, aujourd'hui même, Bruno Le Maire, ça y est, c'est effectif. Quelles conséquences dans un moment où le paradoxe, semble-t-il, enfin en tout cas moi ça m'est apparu comme ça, mais vous allez peut-être me dire que je suis naïve, c'est que RTE, qui s'occupe de distribuer l'électricité, a alerté la semaine dernière en disant en fait on va avoir, parce qu'on va vers plus d'écologie, on va avoir besoin de plus d'électricité. Ça paraît un peu contre-intuitif.
Non, parce que l'électricité elle est décarbonée, donc plus d'électricité et moins d'énergie fossile. Le meilleur exemple, c'est nos voitures. Nous avons vécu pendant plusieurs décennies avec des voitures qui fonctionnaient avec du diesel ou de l'essence ou de l'énergie fossile. Nous allons basculer, et à mon avis beaucoup plus rapidement qu'on ne s'y attendait, vers un parc automobile électrique. Ben, le problème, c'est que ces voitures électriques, il faut alimenter les batteries et que ça consomme beaucoup d'électricité. Que pour produire ces batteries, ce que nous avons fait le choix avec le président de la République de la réindustrialisation, que nous recréons pour la première fois depuis 40 ans des emplois industriels et des usines dans notre pays,
là-dessus,
les usines, il faut les faire tourner.
Là-dessus, j'avoue qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Pardon, je fais une petite
parenthèse.
On vous a entendu tous vous réjouir, et vous aviez bien raison, de ces ouvertures d'usines, de la vallée de la batterie. Et en fait, dans le même temps, la Zoé est à l'arrêt. La ligne de production de la Zoé à Flins est à l'arrêt pour 3 semaines. 3 semaines sans une seule Zoé qui va sortir de l'usine. Donc on a des batteries, enfin on va avoir des batteries, mais on n'aura plus de voitures électriques.
Non, parce que ce qui manque en l'espèce, ce n'est pas les batteries,
c'est les semi-conducteurs, c'est-à-dire ce composant électronique.
Nous allons avoir de la production de batteries électriques dans notre pays. J'ai ouvert il y a quelques jours l'usine ACC de Stellantis, et c'est formidable de voir dans le Dunkerquois, dans une région où il y a eu de la destruction d'emplois, de la destruction d'emplois ouvriers, des usines qui ouvrent, des chaînes de montage, des chaînes de production et des milliers de postes d'ouvriers. Ouvrier doit redevenir un mot attractif, un mot noble dans l'emploi français. Et nous allons continuer à créer des dizaines de milliers d'emplois d'ouvriers, d'ingénieurs, de techniciens dans notre pays. Et c'est une excellente nouvelle. Et nous allons être plus indépendants. Le véhicule électrique veut dire batterie, veut dire aussi semi-conducteur. Si la Zoé est à l'arrêt, c'est que nous manquons de semi-conducteurs. Nous avons obtenu l'extension de l'usine de Crolles à Grenoble pour avoir plus de semi-conducteurs. Et je rappelle qu'une part de la production doit être réservée pour les pouvoirs publics, justement pour que, lorsqu'il y a une pénurie comme sur la Zoé, nous puissions demain fournir les semi-conducteurs à l'industrie automobile.
Donc ça n'arrivera plus, cette chaîne de production.
Ça n'arrivera plus, et nous sommes dans cette voie de la réindustrialisation verte, qui va changer la face du pays. Notre pays s'est appauvri en fermant ses usines et en détruisant des emplois. Il va s'enrichir en se réindustrialisant et en recréant des emplois d'ouvriers et d'ingénieurs.
Bruno Le Maire, la crise du logement considérable. Tous ceux qui travaillent dans ce domaine alertent depuis des mois et ont le sentiment quand même que le gouvernement a accouché d'un plan de petite souris qui n'est pas à la hauteur de la crise. Il y a un point sur lequel, pour le coup, vous êtes aux manettes, qui est la question aussi des taxes et des niches fiscales ou non sur la location de courte durée, ce qu'on appelle Airbnb. Est-ce que vous allez restreindre la possibilité de faire ces locations de courte durée? Est-ce que vous allez vous y attaquer et permettre dans ce cas que ces logements reviennent dans le parc immobilier?
Alors sur Airbnb, on s'y est déjà attaqué. On a réduit la possibilité, la durée à 120 jours. Aujourd'hui, moi, ce qui m'interroge, c'est que nous gardions une fiscalité favorable pour le Airbnb. Donc je suis ouvert à une réforme de la fiscalité sur les Airbnb pour qu'elle soit équivalente à celle d'autres logements. Nous allons travailler là-dessus, faire des propositions à la Première Ministre et au Président de la République, mais je dois dire que j'ai du mal à comprendre la fiscalité très favorable qui s'applique aujourd'hui à Airbnb. Donc nous réformerons cette fiscalité et je ferai des propositions. Ensuite, vous avez effectivement...
C'est vraiment un terrain que vous allez attaquer.
Oui, enfin, je ne vais pas attaquer, ce n'est pas le bon mot, mais la seule question, c'est celle de la justice. À partir du moment où il y a des effets d'aubaine qui sont trop importants et une fiscalité qui est trop favorable, il n'y a pas de raison de garder cette fiscalité qui conduit à des excès. J'oublie jamais que chaque euro que je dépense est un euro du contribuable, d'une personne qui a travaillé dans notre pays. Donc je veux être sûr qu'il soit bien employé. Après, vous avez le problème plus large de l'immobilier. Vous avez connu une décennie entière de flambée immobilière pour une raison qui était très simple. L'argent était gratuit. Donc vous pouviez emprunter à des taux d'intérêt très bas. Qu'est-ce qui change radicalement la donne ? La flambée des taux d'intérêt qui est liée à une politique monétaire qui nous permet de lutter contre l'inflation et contre
donc
les déchets.
Donc on se retrouve à faire une lutte vertueuse d'un côté,
mais qui a des conséquences
de également très dures.
À la fois sur le niveau d'activité, on le voit avec la récession en Europe. Aujourd'hui, il y a une récession dans beaucoup de pays européens, chez nos voisins allemands. La croissance française résiste, mais ailleurs, il y a une récession. Et on le voit sur l'immobilier. Effectivement, pour tous nos compatriotes, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'emprunter parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Je pense que l'erreur de politique économique serait de compenser cette difficulté par toujours plus d'argent public, parce qu'on empêchera les prix de l'immobilier de baisser. Il faut qu'il y ait un ajustement et que les prix de l'immobilier baissent. Est-ce que pour autant nous allons laisser tomber les promoteurs immobiliers, le monde du bâtiment, le monde des travaux publics ? Certainement pas. Mais nous devons apporter les bonnes réponses. La bonne réponse, c'est pas dépenser toujours plus d'argent public, c'est d'avoir du foncier disponible, c'est de construire là où on manque de logements, construire dans les zones tendues, construire dans les zones où justement on ouvre des usines et où il y a des besoins de logements immédiats.
Et où il y aura des jobs. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, merci d'avoir répondu
merci à
mes questions.